Bien, ce matin, le message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Pourquoi Jésus nous demande-t-il de se faire baptiser dans l'eau? » Et puis, ce matin, c'est sûr, on a le privilège d'assister au baptême dans l'eau de Nathan. Et puis, c'est un moment très important dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu qui choisit de croire en Jésus comme son sauveur, puis de mettre sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, pour avoir la vie éternelle, et de le déclarer publiquement. C'est vraiment un moment particulier. Puis, ce matin, j'aimerais t'expliquer quelques raisons pourquoi Jésus nous demande de se faire baptiser dans l'eau une fois que nous avons cru en lui. Et j'aimerais utiliser l'analogie du mariage pour nous aider à comprendre le cheminement de notre relation avec le Seigneur qui nous conduit, pour plusieurs d'entre nous, qui nous conduit au baptême. Et vous savez peut-être que la Bible, elle compare notre relation avec Jésus à un mariage. L'Église, en fait, elle est appelée dans la Bible l'épouse, la fiancée de Jésus. On voit ça il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Puis j'aimerais aujourd'hui comparer le baptême dans l'eau à la cérémonie d'un mariage pour nous aider à comprendre la signification, le pourquoi puis l'importance du baptême d'eau. Et vous savez, habituellement, lorsque nous assistons à un mariage, il y a eu une longue préparation qui a précédé les vœux puis la cérémonie du mariage. Et on pourrait dire que qu'il y a comme trois étapes distinctes qui ont amené l'épouse à s'engager publiquement à son mari, l'époux aussi. Il y a trois étapes distinctes et je crois que de la même façon, vous savez, il y a trois étapes dans la vie d'une personne qui nous amène au baptême d'eau. Et c'est ça ce que je veux voir avec vous ce matin. Puis, ce n'est pas une prédication sur le mariage, là, en passant, sur le baptême d'eau, mais je crois qu'il y a des similarités qui peuvent nous aider à bien comprendre pourquoi Dieu nous demande de se faire baptiser dans l'eau. On va prier à ce temps ici. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Et tu nous connais parfaitement, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Puis merci, Seigneur, que tu désires nous donner la vie, Seigneur. Tu désires avoir une relation avec nous, Seigneur. Et Seigneur, pas seulement ici-bas, mais pour toute l'éternité. Et c'est la raison pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre et que tu as été à la croix, Seigneur, pour prendre nos péchés, pour qu'on soit pardonné et réconcilié avec toi. Et je prie, Seigneur, que ce matin, à travers le message que nous allons entendre ensemble, je prie, Seigneur, que tu parles à tous les cœurs qui sont ici, que tu leur révèles ton amour et ta grâce, Seigneur, que tu les as démontrés à la croix. Et je prie que tu les aides, Seigneur, que tu nous aides à recevoir pleinement, Seigneur, ton amour et ta grâce dans nos vies et à comprendre aussi l'importance du baptême dans l'eau lorsque tu nous appelles à se faire baptiser dans l'eau. Je te prie de m'aider à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire et ton honneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Amen. La première étape qu'on pourrait dire, vous savez, OK, Alain, on y va. La première étape qu'on pourrait dire qui conduit une personne au baptême, on pourrait l'appeler, c'est la recherche de Jésus d'avoir une relation d'amour avec nous. Et vous savez qu'un mariage, habituellement, ça débute lorsqu'un homme fait la cour à sa femme. Généralement, ça débute comme ça, ou parfois c'est la femme qui... Ça va dans les deux sens aussi. Hein? Mais habituellement, ça débute de cette façon-là. Et puis souvent, vous savez, on n'est pas toujours certain si la personne qui essaye de nous faire la cour, si... il est vraiment sincère, si c'est vraiment pour notre bien. On n'est pas certain de ses motifs, s'il nous dit la vérité. C'est quoi ses intentions? C'est-tu pas vrai? OK, peut-être. Et vous savez, avec Jésus, c'est un peu comme ça aussi.
Oui.
Il y a tout d'abord une première rencontre avec Jésus. Il s'approche de nous. Jésus, il vient frapper à la porte de notre cœur. Il nous cherche, vous savez, il veut une relation d'amour avec nous. Et parfois, on n'est pas certain. On n'est pas certain s'il veut vraiment notre bien, c'est quoi ses intentions, vous savez. Et le Seigneur, il vient, c'est écrit, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il veut nous donner la vie. Il veut vraiment notre bien. Et parfois, il vient frapper à la porte de notre cœur. Il vient nous visiter, vous savez. Il vient, parfois, c'est à travers une personne. Parfois, ça peut être à travers un pasteur. Parfois, ça peut être à travers une émission de télévision, sur l'Internet, une église, une lecture. Jésus, il utilise toutes sortes de moyens pour venir nous attirer à lui, pour venir se révéler à nous. On pourrait dire, dans un sens, pour nous faire la cour. OK, vous me comprenez? Je sais que pour moi, vous savez, j'avais 17 ans et puis j'étais au cégep et je vous ai déjà partagé à quelques personnes. Mais Jésus, il a envoyé quelqu'un pour me parler de lui parce que j'étais au cégep. Et c'était un homme, il était plus vieux, il avait 3 enfants, un bon musicien. Et puis le Seigneur, il avait donné un amour dans son cœur pour moi. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bien, aujourd'hui, je sais. C'est que Jésus, il m'attirait à lui. Il voulait que je le connaisse. Et à ce moment-là, à 17 ans, je peux vous dire, je n'étais pas prêt à recevoir Jésus dans ma vie. Mon cœur était endurci. J'étais sceptique. Je l'ai envoyé promener plusieurs fois. Puis j'ai dit, toi, avec ton Jésus, va te promener. J'étais pas prêt de faire confiance à ce qu'il me disait, de faire confiance à Jésus. Vous savez, on nous dit que la plupart des personnes ont besoin d'environ 7 rencontres, 7 rencontres avec Jésus avant de lui ouvrir leur cœur, même de lui donner une chance de l'écouter. Et pour certaines personnes, ça prend des fois plus que 7 rencontres, de différentes manières, vous savez, avant qu'on puisse vraiment lui faire confiance. Mais heureusement que Jésus, c'est un courtisan persévérant, hein, et qu'il ne nous abandonne pas. Même lorsque nous le rejetons, qu'on ne veut pas l'écouter, qu'on l'envoie promener, tu sais, il persévère. Et en fait, la Bible nous dit ceci, vous savez, ça nous dit dans Luc 19, le verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu pour nous chercher, pour nous sauver. Et on pourrait dire, vous savez, que la première étape pour conduire au baptême d'eau, ça commence par la persévérance de Jésus à nous chercher, à nous attirer à lui ou nous faire la cour, là, tu sais, pour qu'on soit sauvés. Et vous savez, la plupart du temps, lorsque un homme fait la cour à une femme, c'est habituellement par amour qu'il le fait, ou ça devrait l'être en tout cas. OK? Hein? Mais lorsque Jésus, il nous attire à lui, qu'il vient nous rencontrer, qu'il nous fait la cour, on pourrait dire, c'est par amour qu'il le fait. Il veut nous donner la vie. Il veut notre bien. Il veut guérir notre cœur brisé. Il veut nous donner la paix. Il veut nous donner la joie. Il veut se révéler. Il veut nous libérer de plein de choses qui nous tiennent esclaves et prisonniers dans notre vie. C'est pour ça que Jésus il vient frapper à la porte de notre cœur, vous savez. Et habituellement, lorsqu'un homme fait la cour à une femme, vous savez, il n'attend pas que elles viennent à lui, mais c'est plutôt lui qui va vers elle. Ça devrait être comme ça, en tout cas. Hein? Okay. Mais il n'attend pas qu'elle lui fasse du bien, mais il est prêt de faire les premiers pas de lui faire du bien. Vous savez, Jésus, il n'attend pas que nous l'aimions avant de nous aimer. Il nous aime déjà avant que nous choisissions de l'aimer. Il vient vers nous. Et la Bible dit ceci, dans 1 Jean, ça dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi est-ce que nous aimons le Seigneur? C'est parce qu'il nous a aimés. Premièrement, il nous a aimés tels que nous sommes. Et l'apôtre Paul, il dit aussi de cette façon-là, il dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et voyez-vous, le message que nous voyons, que nous retrouvons dans la Bible, c'est celui-ci, c'est que Dieu est amour et il nous cherche. Il nous cherche au point qu'il a donné sa vie pour nous. Il veut une relation d'amour avec nous. Il veut que nous venions à lui, que nous recevions sa grâce puis son amour dans notre vie, qu'il nous a démontré à la croix. Jésus a déjà payé le prix de nos péchés à la croix. Et maintenant, il nous offre le don gratuit de la vie éternelle, une relation avec lui. Il nous l'offre comme un cadeau saint. On ne peut pas le mériter, il faut le recevoir. Mais nous devons le recevoir pour avoir le cadeau. Si quelqu'un t'offre quelque chose et tu ne veux pas le recevoir, en bon acadien, on dit « tout bête hein? ». C'est triste pour toi, tu sais. C'est triste pour toi. Nous devons le recevoir. Et nous sommes libres de le recevoir ou de le refuser. Et Dieu, c'est un Dieu qui nous laisse libres. Il va toujours nous laisser libres. Savez. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus, il nous cherche, vous savez. Il veut nous donner la vie. Il cherche à nous convaincre. Il cherche. Et aujourd'hui, vous savez, peut-être que c'est à cet endroit-là que vous êtes. Peut-être c'est là que vous êtes. Peut-être que vous sentez comme une brebis qui est égarée ou perdue dans ce monde. Vous savez. Jésus, il vous cherche. Il vous invite de venir à lui, de lui ouvrir votre cœur, de lui donner votre vie. Et c'est probablement la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que Jésus, il veut se révéler à vous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui cherchent un sens à leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent d'où est-ce qu'ils viennent, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Puis il y a plusieurs gens qui se demandent, mais qu'est-ce qui va arriver avec notre monde, parce que ça semble d'aller de plus en plus mal dans notre monde. C'est? Mais Jésus est venu dans notre monde pour nous donner de l'espoir, pour nous conduire dans le sentier de la paix, de la vie. Et cette vie, elle est en lui. Jésus, il nous veut avec lui. Il veut nous faire partager sa gloire, sa présence, son intimité, son cœur. Notre Père céleste, vous savez, c'est comme un bon père qui veut bénir ses enfants. Tu sais, moi, j'en ai quatre enfants. Je suis béni. J'ai un garçon, moi aussi, puis je l'ai baptisé aussi quelques années passées. Puis mes trois filles aussi, je les ai baptisées, merci Seigneur, vous savez. Mais un bon père qui veut le bien pour ses enfants, Dieu est comme ça aussi. Vous savez, ça se peut que vous êtes craintif aujourd'hui, sceptique, indécis concernant Jésus. C'est correct, c'est normal. En fait, vous savez, c'est normal de prendre notre temps avant de s'engager dans une relation qui affecte notre vie. Beaucoup. Comme le mariage. Bon, je prends l'analogie du mariage encore. Tu sais. Ceux qui sont plus jeunes ici, les adolescents, oui, prenez votre temps puis soyez certains que lorsque vous vous engagez, c'est une bonne décision. C'est normal de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans une relation avec Jésus qui affecte toute notre vie radicalement. Enfin, on se dit, bien, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que ce monde va dire? Qu'est-ce qui va m'arriver si je choisis de vivre ma vie de la manière que Jésus m'appelle à le suivre? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais confesser ma foi? Ce n'est pas tout le monde hein, qui sont contents, qui approuvent, vous savez. Non. C'est vrai. Et c'est bien de prendre le temps, vous savez, d'y réfléchir. Mais Jésus nous invite à venir à lui. Il ne nous oblige pas. Il nous invite à venir à lui. Il ne nous force pas. Et on pourrait dire que c'est la première étape. Il vient vers nous, il frappe à la porte. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Et c'est peut-être là que vous êtes aujourd'hui. La deuxième étape, je veux voir avec vous ce matin, c'est que Jésus, il cherche à nous faire expérimenter sa grandeur, son amour. Il veut que nous expérimentons sa présence, son amour dans notre vie. Dieu est réel, vous savez. OK, je reviens à mon illustration du mariage, OK? Si ça va bien dans les premiers contacts, là, les premières fréquentations, puis ça, tu sais, ça, c'est pas si pire, bien, habituellement, on va donner une chance à notre courtisan. Hein? On va lui donner une chance de faire ses preuves. Avez-vous donné des chances? OK. T'sais, on va lui donner une chance de faire ses preuves pour connaître plus son cœur puis ses intentions discernées. Et parce que le respect et la confiance, ça se bâtit aussi. Ça se développe. On veut connaître vraiment la personne. Et en fait, le courtisan, lui, il va dire la même chose aussi. Si il est vraiment intéressé puis s'il a vraiment un amour dans son cœur pour la personne sincère et pure, il va dire... Laisse-moi faire mes preuves. OK, viens, laisse-moi faire ces preuves. Savez-vous que avant de nous demander de s'engager complètement envers lui, Jésus, il nous invite aussi. Il nous invite, puis il nous permet de le connaître un peu plus. Il nous dit, viens et vois. Expérimente et vois ma présence dans ta vie. Laisse-moi faire mes preuves dans ma vie, dans ta vie. La foi en Jésus, vous savez, ce n'est pas quelque chose de complètement aveugle. Non. Jésus désire nous faire voir des choses, nous faire expérimenter des moments avec lui. Que nous savons une expérience personnelle avec lui qui nous révèle sa fidélité, ses promesses, sa présence, afin de nous amener à un point de grande confiance en lui, confiance dans sa présence, dans sa grandeur et dans son amour. Il veut nous amener plus loin dans cette confiance-là. Savez-vous qu'avant de demander à ses disciples de tout abandonner pour le suivre, Jésus a dit à ses disciples, « Venez et voyez, viens et vois. » Et une fois que les disciples ont été voir et qu'ils ont vu Jésus, Jésus leur a demandé de s'engager totalement envers lui. Puis je veux prendre l'exemple de Nathaniel. Puis ça donne bien, c'est Nathan qui se fait baptiser ce matin, Nathaniel. Hein? Nathaniel... Et Nathan, ça veut dire, Nathaniel, ça veut dire Dieu a donné. Hein? Mais juste lire quelques versets ici dans Jean, ça dit, Nathaniel lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathaniel s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathaniel. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathaniel répondit, « Mais tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et un peu plus loin, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voyez-vous ici, on se retrouve au tout début du ministère de Jésus, aux premières rencontres que Jésus a eues avec ses disciples. Il est en train de les appeler, hein, Philippe. Et voyez-vous ici, Nathaniel, il était sceptique envers Jésus, hein, parce qu'il venait de Nazareth. Il dit, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Hein, en fait, c'est ce qu'il dit. Et je pense que la plupart de nous, on a déjà eu une question comme ça. On a toujours été un peu sceptique. Y a-t-il des gens vous avez déjà été un peu sceptique? OK, il y en a quelques-uns. Mais ici, on voit que ça n'a pas arrêté Jésus de poursuivre Nathaniel pour le convaincre. Et il a dit, Nathaniel, tu vas voir de plus grandes choses encore. Viens puis vois, tu vas voir de plus grandes choses. Et Nathaniel et les disciples ont décidé de suivre Jésus, d'aller et de voir. Et ils ont vu. Ils ont vu le ciel ouvert, ils ont vu les miracles, ils ont vu la grandeur et l'amour de Jésus. Et un peu plus tard, Jésus leur a demandé de tout abandonner. Et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. En fait, un peu plus loin, Pierre il a dit, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et de la même façon, Jésus nous appelle à le suivre pour que nous puissions, premièrement, voir ce qu'il peut faire, sa grandeur, qui il est réellement, son cœur et son amour envers nous, et en fait, envers le monde entier, envers notre famille même. Et nous devons accepter de faire les premiers pas avec lui. On doit accepter de faire les premiers pas. Jésus ne nous force pas. On doit lui donner une chance. La chance, vous savez. Il nous appelle de faire ses preuves, vous savez. Et Jésus est capable de faire ses preuves. Quand on l'invite dans notre vie, on dit, « OK, Seigneur, il est capable. » Jésus ne nous demande pas de tout lui abandonner au départ. Je sais que ça peut sembler un petit peu, là, je ne suis pas hérétique si ce matin, là, Jésus ne nous demande pas, vous savez, de tout lui abandonner au départ. Il veut bâtir notre foi et notre confiance en lui. Il aimerait bien qu'on lui abandonne tout, comprenez-moi bien, mais des fois, ça nous prend du temps avant de pouvoir tout lui abandonner. C'est ça que je veux dire. Et Jésus, il nous invite à venir à lui. Il veut bâtir notre... Vous savez, nous avons tous besoin de cette étape pour grandir dans la foi, dans la confiance en Jésus, afin que nous soyons prêts un jour à tout lui abandonner complètement. Puis c'est correct. C'est correct. Et peut-être que vous êtes dans cette étape aujourd'hui, dans votre cheminement, dans votre relation avec Jésus. Peut-être que, OK, vous êtes peut-être prêt de lui donner une chance. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous donnez une chance au Seigneur, vous dites, OK, Seigneur, je suis encore un peu sceptique, là, mais Seigneur, je t'invite dans ma vie, puis je te donne une chance de te révéler. Le Seigneur est fidèle. Et je pense que chacun d'entre nous, plusieurs d'entre nous ici, on a vu comment est-ce que Dieu est venu se révéler à nous. Vous savez, apprendre à faire confiance en Jésus, à marcher par la foi, on pourrait dire que c'est un peu comme apprendre à nager dans l'eau ou à faire de la bicyclette. C'est épeurant au début, hein? Et on n'est pas certain si on va flotter, on n'est pas certain si ça va rouler sur deux roues, hein? Mais le plus que nous avançons, le plus, vous savez, qu'on s'abandonne, qu'on va prendre certains risques, le plus que nous découvrons, waouh, ça flotte, puis ça roule. Le plus que nous avançons aussi avec le Seigneur, le plus que nous découvrons que le Seigneur est là, qu'il est là pour nous, qu'il nous soutient, que Jésus nous tient dans le creux de sa main. Et en fait, non seulement notre confiance est affermie en lui, mais notre amour est affermi en lui aussi. Puis notre foi est affermie en lui. Amen. C'est vraiment ce que nous découvrons. Donc Jésus, il nous attire à lui. Il recherche une relation avec nous parce qu'il veut notre bien. Et il nous dit aussi, viens, viens et vois. Parce qu'il veut bâtir notre confiance en lui, notre connaissance avec lui. Et maintenant, c'est quoi la troisième étape? La troisième étape que j'aimerais vous parler ce matin, c'est que Jésus nous demande un engagement officiel par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Dans Matthieu, au chapitre 28, ça dit ceci. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, en quittant ses disciples, vous savez, il a fait du baptême d'eau le signe extérieur de la foi, de l'appartenance au Dieu qu'il est venu révéler, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on pourrait dire, vous savez, que la troisième étape, c'est l'engagement officiel par le baptême douce. Et c'est ce que les disciples ont fait, on le voit dans les Écritures, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, dans l'histoire de l'Église, vous savez, ils ont baptisé les gens qui venaient à la foi. Ils se faisaient baptiser. L'apôtre Pierre à la Pentecôte, quand ce qu'il a prêché, puis les gens ont dit, bien, que ferons-nous? Hein? Et Pierre leur a dit d'être baptisés. Hein? Et là, peut-être que vous me posez la question ce matin, peut-être que vous me dites, bien, pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de se faire baptiser dans l'eau? Hein? La confession de notre foi, est-ce que ce n'est pas suffisant? Hein? Après tout, la Bible, c'est clair que ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve, non. C'est la confession de notre foi. La Bible dit clairement, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Amen. Et dans Romains, ça dit ceci, hein? Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est clair, vous savez. Crois au Seigneur Jésus. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour être réconcilié avec Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Croire, vous savez, que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre ici, mourir sur une croix, pour prendre nos péchés, afin qu'on soit pardonné, puis qu'on soit réconcilié avec Dieu. C'est clair et net. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que Pierre, les apôtres, les disciples, vous savez, se sont fait baptiser, puis qui ont baptisé dans l'eau? Pourquoi? La raison du baptême, d'eau comme qu'on va voir tout à l'heure. Hein? Il y a plusieurs raisons, vous savez. Il y a plusieurs raisons pour le baptême d'eau. Mais je vais juste continuer un petit peu avec mon exemple du mariage. Okay. On pourrait dire, c'est comme, vous savez, si un homme qui lui dit, je t'aime, puis je veux vivre le restant de ma vie avec toi, mais je ne veux pas m'engager dans le mariage, je ne veux pas me marier, puis je ne veux pas le déclarer publiquement. Trouvez-vous qu'il manque quelque chose? Il me semble qu'il y a une contradiction dans ceci. Tu sais. Je t'aime, je veux vivre le restant de ma vie avec toi, mais je ne veux pas m'engager dans le mariage, puis je ne veux pas non plus le déclarer publiquement. Il manque quelque chose. Puis je pense que soit la femme ou elle peut se poser la question, tu m'aimes-tu vraiment? Tu me dis-tu vraiment la vérité? Vous savez, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que je peux dire que j'ai la foi, mais s'il n'y a aucune action qui démontre ma foi, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Vous savez, c'est un peu comme, on peut dire, je crois qu'un avion, disons, un avion peut voler. Hein? Mais si je n'accepte jamais d'embarquer dans l'avion, je n'ai pas vraiment la foi que l'avion peut voler. Ça m'est déjà arrivé une fois. Un de mes amis, je pense que je vous ai peut-être déjà dit ça, mais un de mes amis qui avait suivi un cours de pilote, puis il avait un petit avion. Il m'a dit, « Hey, Luc, j'ai fini mon cours, puis j'ai un petit avion. Viens, je voudrais te donner un tour en avion. » J'ai dit, « Je m'excuse, mais je me suis trouvé toutes sortes d'excuses. Hein? » Puis mon épouse, elle aussi, elle m'a dit, « Luc, t'embarques pas dans cet avion-là, c'est sûr. » Elle avait juste pas la foi. Puis je pense que je ne l'ai pas encore. Mais c'était vraiment... Mais vous savez, la foi, c'est comme ça. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'action, notre foi est morte. On n'a pas la foi. Et le baptême, en fait, c'est une façon que Dieu nous a donnée pour déclarer, pour démontrer publiquement notre foi en Jésus comme notre sauveur personnel. C'est une façon que Jésus nous a laissée pour lui démontrer d'une manière concrète notre désir de s'engager envers lui, pour l'aimer, pour le suivre, pour l'honorer. C'est une façon, vous savez, non seulement de le dire en privé, dans notre cœur, mais aussi publiquement, devant les hommes et devant Dieu. Il y a certaines choses, vous savez, que déclarer, c'est une chose de déclarer des paroles devant Dieu dans notre cœur, mais c'est aussi une autre chose de les déclarer publiquement. Et parfois, il y a des conséquences, il y a des ramifications qu'on pourrait dire qui sont beaucoup plus grandes lorsqu'on confesse publiquement notre foi. Aujourd'hui même, il y a des gens que s'ils confessent leur foi en Jésus, vous savez, ça peut même leur coûter leur vie dans certains pays parce qu'ils sont très persécutés. Et Jésus a dit ceci, vous savez. Il a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et le baptême, c'est une confession publique de notre foi en Jésus. Et c'est aussi une déclaration publique de notre engagement envers Jésus. On dit, moi, je crois en Jésus-Christ, j'ai reçu Jésus-Christ et j'ai décidé de suivre Jésus-Christ comme mon sauveur. Et c'est la raison pourquoi lorsque je baptise quelqu'un, vous savez, puis je vais demander les questions à Nathan tout à l'heure, je leur pose trois questions. Je leur dis, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés? Je pose aussi la question, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel dans ta vie? Et je leur pose la question, est-ce que c'est le désir de ton cœur de vivre pour lui, de l'honorer et de le servir avec ta vie? C'est un engagement. Vous savez, un peu comme le mariage, c'est une déclaration publique et solennelle de notre engagement envers notre conjoint. Le baptême, c'est un moyen aussi d'exprimer publiquement et solennellement notre foi et notre engagement envers Jésus. Et c'est une des raisons, vous savez, pourquoi Jésus nous demande de s'engager publiquement par le baptême d'eau. Et ce matin, je termine en disant ceci, vous savez, où en êtes-vous dans votre relation avec Jésus? Où en êtes-vous dans votre relation? Est-ce que Jésus doit encore chercher à vous convaincre de son amour pour vous? Est-ce qu'il est encore en train d'essayer de vous convaincre de son amour? Est-ce que vous avez accepté son invitation pour lui permettre de vous faire découvrir sa grandeur, de faire ses preuves dans sa vie? Ou est-ce que vous êtes rendu peut-être au moment de déclarer votre foi et votre engagement publiquement par le baptême d'eau? Aujourd'hui, Nathan, c'est là qu'il est rendu. Amen. Et on bénit le Seigneur pour ça. Et vous savez, un baptême d'eau aussi, c'est un moment important, oui, pour réfléchir à notre relation avec Jésus. Comme les questions ici. C'est bien de se demander, vous savez, de réfléchir où est-ce que j'en suis avec Jésus. Et c'est un moment aussi, le baptême d'eau, pour se rappeler notre engagement lorsque nous sommes passés par le baptême d'eau un jour. Je crois que il y a beaucoup de gens ici qui se sont fait baptiser. Je me souviens, moi, quand je me suis fait baptiser, l'eau était froide. Oh! J'avais hâte de sortir de l'eau. Nathan, l'eau n'est pas trop froide. Je pense que tu vas être correct. Mais c'est un moment aussi, vous savez. C'est un moment pour se rappeler qu'un jour, lorsqu'on s'est fait baptiser dans l'eau, vous savez, on a déclaré notre foi et on a déclaré aussi un engagement à suivre le Seigneur. Et je crois que c'est bon pour chacun de nous aujourd'hui de se rappeler cet engagement-là. Et que ça puisse être notre désir, vous savez. Oui, Seigneur, Merci de m'avoir sauvé, Seigneur, et aide-moi, Seigneur, à te suivre de tout mon cœur, Seigneur, de respecter cet engagement-là que j'ai fait un jour devant toi. Amen. Le baptême d'eau, c'est important. Et on est content de pouvoir célébrer ce moment-là dans ta vie, Nathan, avec toi. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux puis on va se préparer ensuite au baptême? Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous cherches, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour chercher et sauver ce qui était perdu, Seigneur. Et c'est chacun de nous, Seigneur. On est tous comme des brebis égarées, perdues, Seigneur. Puis merci, Seigneur, que même lorsque nous résistons à toi, Seigneur Dieu, puis nous sommes sceptiques, Seigneur, merci que tu persévères, Seigneur. Que tu persévères pour nous attirer à toi, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Tu nous veux. Tu veux nous offrir le don de la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Chacun de nous, Seigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de ton amour qui a persisté, Seigneur, à venir nous chercher. Puis je prie ce matin, Seigneur, s'il y a des gens, Seigneur, dans ce lieu qui ne sont pas encore convaincus, je prie que tu les aides, Seigneur, à recevoir ta grâce et ton amour dans leur vie. C'est ma prière, Seigneur. Puis, Seigneur, peut-être, Seigneur, qu'il y en a qui sont sceptiques au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu continues à leur démontrer, Seigneur, ta grandeur et ta grâce, afin qu'ils puissent vraiment complètement s'abandonner à toi, Seigneur, t'ouvrir complètement leur cœur, leur vie, et recevoir pleinement tout ce que tu désires faire dans leur vie, dans leur famille. Oui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, Seigneur, que nous sommes fait baptiser un jour, Seigneur, nous avons confessé notre foi et déclaré notre engagement. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu viennes fortifier nos cœurs afin que nous persistions, oui, Seigneur, dans cet engagement, Seigneur Dieu, dans cette confession de foi, afin que tu sois glorifié et honoré toujours à travers de nos vies. C'est ma prière, Seigneur. Puis, Seigneur, merci, Seigneur, pour Nathan, Seigneur, pour notre frère, Seigneur, qui va confesser sa foi dans les eaux du baptême ce matin. On prie, Seigneur Dieu, que ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, l'accompagne, que tu le touches profondément dans son cœur, avec ta présence. Seigneur Dieu, on prie que tu le gardes, Seigneur. Tu as des plans pour sa vie, Seigneur, et que, Seigneur, qu'il puisse marcher dans le plan parfait que tu as pour sa vie, Seigneur. Merci, Dieu. Bénis-le, lui, et bénis toute sa famille. Merci qu'ils sont ici ce matin. C'est ma prière. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous prions ces choses. Amen.